Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la libre antenne, vous nous appelez, vous commentez l'actualité de votre choix. Je vous le disais tout à l'heure, en première partie, vous êtes encore nombreux à réagir aux déclarations de Washington sur la Cour pénale internationale. Washington qui menace désormais de sanctionner les juges de la Cour s'ils décidaient de poursuivre des citoyens américains. On a pris le temps en première partie avec Karine Bonneau de la Fédération internationale des droits de l'homme. On a pris le temps pour vous répondre, répondre à toutes vos questions. Et maintenant, parlons-en quelques minutes encore avec Francis. Bonjour.
Bonjour Gomez.
Bienvenue, vous êtes à Brazzaville et vous disiez au Standard ne pas être surpris finalement par les propos de John Bolton qui n'a fait finalement que reprendre ce que pense Donald Trump de la Cour pénale internationale.
Bien sûr, je disais que je ne suis pas surpris, d'autant plus que le président américain nous a habitués depuis qu'il est arrivé au pouvoir à ce type de déclaration, à une espèce de remise en cause de l'ordre international établi. Je ne voudrais pas revenir sur la plupart des décisions qu'il a prises, mais au sujet de la CPI, non seulement je ne suis pas surpris, mais en même temps, je suis étonné qu'un pays comme les États-Unis, un pays de longue tradition démocratique puisse ainsi vouloir bafouer la justice quand il s'agit de ses soldats, quand il s'agit de ses ressortissants. Alors que c'est un pays qui passe pour un donneur de leçons, ce sont des pays qui jouent les gendarmes au niveau mondial. On voit comment ils sont en train de traquer les pays africains, comment est-ce qu'ils sont en train de se lever contre, par exemple, la Chine ou la Russie quand il s'agit de ce type de bavure ou encore de violence. Alors, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que les États-Unis cacheraient si jamais leurs soldats sont traqués par la Cour, la CPI?
Oui. Enfin, en même temps, les États-Unis, bon, n'ont jamais adhéré à la Cour pénale internationale, mais eux disent il est hors de question qu'un citoyen américain soit poursuivi par la justice internationale. Nous avons sur notre propre territoire les tribunaux adéquats, la justice qui fonctionne pour juger des crimes de guerre si toutefois un jour, il faudra juger des crimes de guerre.
Oui, bien entendu, mais c'est vrai. Mais sauf que jusque-là, ces soldats n'ont jamais été jugés. La communauté internationale n'a jamais eu preuve de la volonté des États-Unis d'aller de soumettre ces soldats à la justice. Donc c'est un peu cela. Donc c'est comme si ces soldats brillent, plutôt les États-Unis, comment je peux dire, promeuvent l'impunité hein, quand il s'agit de ces soldats. Donc c'est un peu ça tout l'étonnement qui est le nôtre. En même temps, c'est vrai, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome qui institue la CPI, mais en même temps, j'ai suivi votre celui qui est intervenu tout à l'heure, le consultant de celui qui a parlé des droits de l'homme, qui dit que la CPI est dans son droit de poursuivre toute personne qui aura commis des actes dans un territoire qui a ratifié, dans un État qui a ratifié son statut.
Effectivement, et c'est le cas, puisque l'Afghanistan a adhéré au statut de Rome en 2003. Restez avec nous, Francis. Mamadou nous appelle, lui, de N'Djamena. Bonjour.
Bonjour, M. Gomez. Bonjour à toute votre équipe.
Merci de vos encouragements. Vous avez été outré par les propos de John Bolton.
En effet, je suis outré dans la mesure que je ne peux pas comprendre que M. Bolton puisse tenir de tels propos pour vouloir, n'est-ce pas, protéger des soldats américains qui, moi, jusque-là, n'ont pas été encore présentés comme coupables de quoi que ce soit. Moi, je déduis dans les propos de M. Bolton, soit c'est une peur de reconnaître que les Américains ont commis, n'est-ce pas, de graves crimes ou des violations des droits de l'homme, soit ça relève d'une impéritie juridico-diplomatique de la scène internationale. Sinon, comment est-ce qu'un pays comme les États-Unis puisse, n'est-ce pas, se mettre au devant de la scène pour dire qu'il n'accepterait pas de faire juger les ressortissants par ces pays, moins encore les alliés? Or, il se trouve qu'il y a beaucoup d'alliés. Moi, je pense que c'est une manière de vouloir protéger et les Américains et l'Israël. Sinon, pourquoi est-ce que les pays européens, membres de l'OTAN, qui sont des vrais alliés de tout le temps des États-Unis, n'ont pas, n'est-ce pas, daigné ne pas reconnaître la CPI?
Ouais. Or, mais alors, mais justement, Mamadou et Francis, puisque vous êtes tous les deux en ligne, est-ce que vous ne craignez pas que les propos de John Bolton affaiblissent encore un peu plus la Cour pénale internationale? Est-ce que ça ne peut pas donner de l'eau au moulin, apporter de l'eau au moulin aux chefs d'État africains qui souhaiteraient se retirer de la Cour pénale internationale?
Ouais, moi, je pense que M. Ouru Kinata et son vice-président ont fait preuve d'un courage extraordinaire pour aller se présenter devant la CPI quand il a fallu vraiment les accuser. Mmh. Et moi, je pense que les États-Unis doivent pouvoir suivre ces exemples pour dire que même des petits pays, entre guillemets, africains, chaque fois qu'on nous accuse de ne pas être démocratique ou bien ne reconnaissant pas ou bien ne respectant pas les droits de l'homme, ne daignent pas, n'est-ce pas, refuser, mmh. alors qu'un grand pays de tradition démocratique, de tradition multipartiste, veuille, n'est-ce pas, à ne pas aller devant la CPI. Ça, c'est vraiment une injure à la diplomatie mondiale.
Oui. Francis, à Brazzaville, vous êtes d'accord avec Mamadou ?
Oui, justement, je suis d'accord avec lui, dans la mesure où il y a 2 ans à peu près, ou 3 ans comme ça, la plupart des chefs d'État africains, au niveau de l'Union africaine, s'étaient prononcés pour un retrait collectif de la CPI. Mais en même temps, je me dis que c'est vrai, ça va affaiblir la CPI, mais c'est à la CPI, finalement, d'essayer de sortir de sa torpeur, de donner des gages d'une justice au service de la planète, au service du monde entier, parce que jusque-là, elle a été beaucoup plus, plus concentrée sur les affaires africaines, ce qui a donné l'impression à nous autres Africains que cette CPI finalement travaille essentiellement pour contre l'Afrique et jamais et non plus contre les autres États.
Oui,
du
mais enfin, donc, vous avez écouté tout à l'heure la première partie. On parlait de l'Afghanistan. Il y a un examen préliminaire sur l'Afghanistan. La même chose concernant la Palestine. Une enquête ouverte en Colombie. Donc, vous voyez, certes, toutes les personnes jugées et condamnées par la CPI sont toutes des personnalités africaines, mais la CPI travaille sur d'autres continents et sur d'autres conflits à travers le monde. Merci à tous les deux, Francis et Mamadou. Bonne journée. On aura l'occasion de revenir évidemment sur la Cour pénale internationale. Je sais qu'à chaque fois, c'est un sujet qui passionne, sur lequel vous avez envie de donner votre point de vue. On a pris le temps ce matin d'y revenir quelques instants. Il y a d'autres sujets qui vous ont quand même marqué cette semaine dans l'actualité, et notamment si vous êtes en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire, la rentrée qui s'annonce mouvementée. Mardi, des affrontements ont eu lieu sur le campus de l'université Félix Houphouët Boigny, des affrontements entre des étudiants et les forces de l'ordre, et les étudiants dénoncent ce qu'ils appellent les frais annexes d'inscription. Bonjour Abdoul.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Alors vous êtes parent d'élèves et vous comprenez la colère des étudiants.
Effectivement, fils de Juan, vous le savez, la FICI, donc la Fédération Estudiantine des Scolaires de Côte d'Ivoire, n'a pas du tout bonne réputation ici, hein, et compte tenu de son histoire assez tumultueuse. Mais pour ce qui concerne cette énième revendication concernant les frais scolaires annexes, moi je la trouve tout à fait légitime, même si encore une fois, on peut penser qu'elle devait être le rôle des corporations de parents d'élèves pendant que la FICI se concentrerait sur des combats d'amélioration de la vie scolaire tels que la disponibilité des infrastructures des enseignants et même la qualité de l'enseignement.
Abdoul, soyons concrets pour ceux qui nous écoutent à travers le monde. Qu'est-ce qu'on entend par frais annexes d'inscription ?
Alors, Juan, pour ce qui me concerne personnellement, les frais annexes, c'est tout ce qui vient au-delà des droits scolaires ordinaires. Pour ce qui me concerne personnellement, comme je le disais, dans un établissement privé, en plus des droits d'inscription de mon enfant, et pour cette année scolaire 2018-2019, j'ai dû payer et pour des frais d'infirmerie, soi-disant pour l'entretien de l'infirmerie interne où nos enfants sont rarement pris en charge, sinon pas du tout. J'ai dû payer pour des t-shirts à l'effigie de l'établissement scolaire obligatoire, même si celui de l'année précédente n'est pas hors d'usage. Mmh. On a dû payer pour des papiers de rame, soi-disant pour l'impression de fascicules. Et il faut payer obligatoirement des cours censés être facultatifs, comme des cours d'informatique, d'art, de musique. Et puis, Juan, il faut acheter des ouvrages confectionnés sur mesure dans ces établissements par des enseignants avec la complicité des responsables de ces établissements-là.
Oui, c'est-à-dire qu'initialement, on vous dit les frais de scolarité s'élèvent à tant, mais dans la réalité, vous payez 2, 3 fois ou peut-être 4 fois plus finalement avec tous les frais qu'on vous réclame à côté. Vous êtes, Abdoul, vos enfants sont dans une école privée, il en est de même dans les établissements publics.
Dans les établissements publics, effectivement, oui. Dans les établissements publics, il y a tout un tas de frais supplémentaires qui sont dédiés au ce qu'ils appellent le COGES, donc le comité de gestion des écoles, qui sont des structures parallèles des parents d'élèves, pour lesquelles, effectivement, les parents ont à payer pas mal de frais supplémentaires. Mmh. Et depuis des années de grogne, il n'y a pas de solution. L'État ne réagit pas à travers le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Et quoi de plus normal que la FECI, qui se sent un syndicat assez fort, veuille prendre le devant des choses. Et comme je le disais, même si on peut penser que de prime abord, cette lutte ne devrait pas lui revenir.
Oui, c'est aux parents, c'est ce que vous disiez, et non à la Fédération des étudiants. Bonjour Daniel.
Bonjour Juan.
Vous êtes également à Abidjan et vous souhaitiez réagir à ce mécontentement des étudiants dans votre pays.
Effectivement, pour avoir été leader étudiant de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire, moi je peux dire ici dans le fond qu'il y a la revendication, nous avons deux positions fondamentales. D'abord les frais annexes dans le public imposés par le COGES, qui sont les associations des parents d'élèves, ne doivent pas être une condition d'entrée en classe. Ça, c'est un premier temps. Dans deux, il faut déplorer le fait que les frais annexes et d'inscription des élèves affectés de l'État dans le privé, c'est-à-dire dans les établissements privés, représentent en réalité les frais de scolarité. Puisque l'État ne verse pas à temps les subventions accordées aux établissements d'enseignement privé. Ce qui veut dire, pour un élève qui est affecté de l'État dans un établissement privé, doit payer des frais d'inscription, doit payer des frais annexes qui s'élèvent en réalité aux frais de scolarité, parce que les fondateurs des établissements privés disent que, oui, nous acceptons vos élèves, mais l'État ne verse pas à temps les subventions, donc nous avons des salaires des professeurs, oui. Nous avons des charges, nous avons des impôts.
Ouais. Enfin, visiblement, Daniel et Abdoul, ce problème, il est récurrent. L'année dernière, si ma mémoire est bonne, les étudiants avaient déjà manifesté contre ces frais annexes d'inscription.
Effectivement. Maintenant, dans la forme des revendications, comme je l'ai dit, que j'oppose au fond, il y a le mutisme et la non-implication des associations et organisations des parents d'élèves, qui sont normalement les porteurs légitimes du combat.
Oui.
Ce qui discrédite déjà les organisations étudiantines qui portent ces revendications.
Je ne sais pas qui est discrédité dans cette histoire, Daniel. Vous êtes tous les deux d'accord, Abdoul, et vous, sur le fait que ce n'est pas à la FESI d'aller contester, d'aller manifester, dénoncer ces frais annexes d'inscription, mais si les parents d'élèves ne le font pas, si les associations des parents ne le font pas, eh bien, les étudiants eux-mêmes le font. Voilà. Je vous interromps. On passe à un autre sujet parce que le temps passe très très vite. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée, Abdoul. Merci de nous écouter à Abidjan. Nous allons à Madagascar. On a parlé cette semaine de la démission du président sortant. Il est candidat à sa propre succession et il a dû démissionner puisque la Constitution l'oblige à le faire s'il souhaite se représenter. Et il doit démissionner 60 jours avant la date du scrutin. L'objectif de cette démission, c'est que le président en exercice ne profite pas des moyens de l'État pour faire campagne. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. C'est un processus unique au monde. Et plusieurs malgaches nous ont appelés. C'est le cas de Gabriel. Bonjour.
Oui, bonjour toute l'équipe de RFI.
Vous êtes à Antananarive et vous disiez avoir envie dans la Libre Antenne d'exprimer finalement la fierté ce matin d'être malgache et d'être dans un pays qui, visiblement sur le plan démocratique, avance.
Oui, bien sûr, parce que vous savez que le président de la République a remis sa démission officiellement. Donc le 7 septembre dernier, à partir du moment où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, donc le 17 août. Donc il a fait que respecter les dispositions législatives et constitutionnelles qui imposent la démission du président 60 jours avant l'élection.
Oui.
Donc pour moi, c'est une avancée démocratique à Madagascar.
Et en même temps, Gabriel, j'entends bien, mais quoi de plus normal qu'un président de la République respecte la constitution de son pays?
Oui, mais tout est normal. Quand on voit quand même les certains faits qui se passent en Afrique où quelques présidents veulent essayer de manigancer et de tourner la Constitution pour rester jusqu'à la fin du mandat pour pouvoir bénéficier des prérogatives de puissance publique. On peut quand même féliciter, malgré tout ce qu'on peut penser de Madagascar et de ce qu'a fait le président, de cette initiative démocratique qui peut faire la fierté de Madagascar, parce qu'on peut dire que la démocratie malgache est en pleine mutation et en pleine maturité.
Ouais. Se pose tout de même la question, Gabriel, de la neutralité du président intérimaire, puisqu'effectivement, le président Razon Arman Pian a démissionné. Du coup, il n'y a pas de vacance de pouvoir, puisque c'est le président du Sénat qui prend la relève jusqu'à l'investiture du nouveau président. On sait que le nouveau président, celui qui est là par intérim, est très très proche du président démissionnaire. Est-ce qu'il ne va pas tout de même le favoriser tout au long du processus électoral?
Non, je ne pense pas, puisque il y a eu la nomination du nouveau Premier ministre de consensus, donc qui a formé un gouvernement de consensus. Et c'est le Premier ministre qui dispose de tous les leviers de pouvoir actuellement. Lui, il ne fait qu'assurer en fait l'intérim comme son nom l'indique. Donc il ne peut ni remplacer, ni supplier le président de la République. Mmh. Et d'ailleurs, la Haute Cour constitutionnelle a très bien limité son pouvoir dans son avis en date du 7 septembre dernier,
oui.
Donc, qui fait que le président par intérim ne peut exercer les mêmes fonctions que le président de la République.
Alors effectivement, il a moins de pouvoir. Il a moins de pouvoir que le président élu, mais ça ne l'empêchera pas, et c'est une partie de l'opposition qui le craint, hein, que le président par intérim, en sous-main, favorise son ami, puisqu'ils sont amis, tout au long de la campagne électorale. Merci, j'ai été ravi de discuter avec vous. Vous êtes certainement très nombreux, vous l'êtes, à nous écouter à Madagascar, mais vous êtes peu nombreux à nous appeler. Donc n'hésitez pas, faites comme Gabriel, 33 1 693 693 70. Je vous rappelle le principe, hein, vous nous contactez à Paris, vous prenez en charge évidemment cette partie de la communication, et ensuite on note votre numéro de téléphone et on vous rappelle évidemment dans les minutes qui suivent. Donald, peut-être, c'est bien ça. Bonjour Donald.
Bonjour.
Vous êtes à Yaoundé. Vous nous interpellez, vous, sur la polémique suscitée par le contenu d'un manuel scolaire inscrit au programme des classes de 5e au Cameroun. C'est un manuel qui traite de la sexualité.
En fait, c'est pas un manuel qui traite de la sexualité, c'est que dans le manuel il y a un chapitre consacré à la sexualité.
Oui,
bon, et donc puis ça fait justement débat parce que pour des élèves de ce niveau, une grande partie de l'opinion trouve que c'est osé de traiter de tout ce qui a été traité dans le manuel.
C'est-à-dire, il est question, disons les choses et appelons les choses par leur nom. Il est question de cunnilingus, de fellation, de sodomie, d'homosexualité, de zoophilie, d'inceste.
Voilà, voilà. Je crois qu'on aurait pu leur apprendre ce que signifie l'inceste et on s'arrêterait là pour les enfants qui ont entre 9 ans et 10 ans.
Ouais.
Et 11 ans, je veux dire. Mais aller à tout ce qu'on a cité là, la fellation, la vie et tout, bon, une grosse partie de l'opinion nationale trouve que ça a été quand même assez osé.
Ouais.
Et puis moi, personnellement, j'y crois aussi parce que, je vais vous dire, j'ai plus de 50 ans, des choses comme les fellations, à la pratique, je suis pas sûr que j'en connais depuis 20 ans. Et même l'appellation, c'était pas évident.
Bon,
nous
chacun
sommes dans une société.
Chacun ses pratiques.
Dans une société qui est encore, s'il vous plaît, Juan.
Oui, oui.
Nous sommes dans une société qui est encore beaucoup, encore ancrée sur les traditions, hein. Ça va pas changer comme ça d'un coup de main.
Oui.
Donc il faut aller crescendo. Je vais pas dire que je suis un exemple, mais pour des enfants qui ont entre 9 ans et 13 ans, on aurait dû y aller graduellement.
Ouais. Et j'ai pu entendre le micro-trottoir de Polycarpe Essomba, pardon, qui est le correspondant de RFI au Cameroun. J'entendais une jeune fille dire, mais arrêtons de nous voiler la face. Une fellation, c'est une fellation. Et on sait que les jeunes, alors peut-être pas à cet âge-là, pratiquent les fellations ou le cunnilingus. Il faut parler clairement aux enfants.
Oui, mais pas à cet âge-là. Il faut bien même qu'ils soient disposés à comprendre. Et alors, même s'ils ont compris, Il faut pas y aller aussi justement.
Ouais.
Qu'on enseigne cela aux gens qui ont entre 16 et 18 ans, parce qu'ils sont déjà actifs sexuellement, et il faut pas commencer à créer. Il y a d'autres vocations à créer chez ces enfants à cet âge-là que celle-là, quoi.
Ouais, il y a de nombreuses associations de parents d'élèves qui appellent au retrait de ce livre. Merci Donald. Bonne journée à Yaoundé au Cameroun. Désolé pour Mohamedou qui était à Ouagadougou, qui voulait nous parler de cette fameuse lettre écrite par Saïf al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi, lettre dans laquelle il affirme une fois de plus que Nicolas Sarkozy a perçu du financement libyen lors de sa campagne électorale en 2009, si ma mémoire est bonne. Il y avait des questions et des réactions encore sur la République démocratique du Congo et l'opposition qui essaye de trouver, tant bien que mal, une stratégie pour la présidentielle de décembre prochain. Voilà des sujets qu'on aura l'occasion évidemment d'aborder dans les prochains jours. Lundi, on parlera de la commission électorale en Côte d'Ivoire. L'ensemble de l'opposition réclame la réforme de cette commission avant les élections locales qui doivent se tenir dans un mois. Le président Ouattara affirme qu'il y aura réforme, mais après les élections. Donc l'opposition est vent debout, on en parlera, vous nous direz si cette réforme est nécessaire, est-elle urgente ? On en parlera donc lundi matin. Bonjour Caroline Paré.